Nous reprenons le cours de Radio Barque pour notre seconde partie avec notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Aversinck, directeur du SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières pour le département de l'Aude. Alors vous nous avez expliqué, monsieur Aversinck, la naissance, la genèse et puis les missions de ce SMAR. On pourrait rentrer. Alors peut-être, ce SMAR, vous l'avez expliqué, est né en 2002, on est en 25. Y a-t-il des changements ou une évolution dans les responsabilités, par exemple?
Oui, effectivement, en 25 ans quasiment, hein, vous imaginez bien que nos compétences ont évolué. Effectivement, le SMAR s'est construit d'abord sur la réponse opérationnelle à une crue historique, j'évoquais 1999. Donc effectivement, nos compétences ont évolué. Nous sommes un acteur de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention contre les inondations. Nous développons également des compétences liées à la gestion de la ressource en eau et notamment la conciliation des usages. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Mais la petite nouveauté, je dirais, de l'année 2025 et surtout de l'année 2026, c'est que dans nos compétences, nous devenons un acteur de la gestion des milieux aquatiques sur le fleuve Aude. Alors, jusqu'à maintenant, nous intervenions à travers les syndicats de rivières adhérents au SMAR sur les affluents, et le fleuve Aude, il y avait une sorte d'imbroglio juridique qui faisait que tout le monde s'en occupait et finalement pas grand monde. Donc
un manque de précision dans les attributions de responsabilité en quelque sorte.
Oui, alors c'est peut-être un peu trop technique et juridique à expliquer ici, mais notez que à la suite d'une analyse juridique, il s'est avéré que il y a eu une volonté politique de dire aujourd'hui il y a des maîtrises d'ouvrage, il y a des acteurs sur les affluents que sont nos syndicats de rivière, et finalement, de Quillan à la mer, le fleuve est la propriété de l'État, et en matière d'aménagement, de projet, au mieux, il y a un fractionnement des maîtrises d'ouvrage, et au pire, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, il y a eu cette analyse-là, et les élus ont souhaité faire du SMAR l'opérateur unique en charge de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations, sur le fleuve Aude, de Quillan à la mer. Et donc ça, c'est une nouveauté. Et finalement, c'est ni plus ni moins que l'aboutissement de ce que font les syndicats de rivières sur les affluents. Le SMAR le fait également sur le fleuve Aude de Quillan à la mer.
Mais là, il y a une unité, une harmonisation des responsabilités.
Voilà, il y a une logique, hein, oui, je dirais, oui. D'intervention qui se fait donc en complémentarité avec nos syndicats adhérents, mais surtout en complémentarité avec l'État. Oui, puisque sur la gestion du fleuve Aude, il faut comprendre qu'il y a bien deux compétences qui sont combinées. L'État, d'un côté, qui est propriétaire et à ce titre doit assurer en tout temps, en tout lieu, le libre écoulement de l'eau et donc est chargé de gérer l'enlèvement des embâcles, vous savez, ces amas de troncs qui peuvent obstruer les ponts notamment. Et donc l'État est chargé d'assurer ce libre écoulement, là où désormais le SMAR pourra intervenir sur des projets d'aménagement et de protection contre les inondations.
Alors ce qu'il faut savoir, parce que les Audois le savent peut-être pas tous, c'est que l'Aude naît non pas dans l'Aude, mais dans les Pyrénées-Orientales, en Cap-Cyr, par là.
C'est ça, c'est ça, oui, voilà. Donc le fleuve Aude est un fleuve méditerranéen, mais qui naît dans les Pyrénées, et donc transite à travers les Pyrénées-Orientales et tout le département de l'Aude.
Voilà, puis après il y a Quillan, et puis Quillan, c'est
voilà.
La Haute-Vallée, la Basse-Vallée, etc.
Oui, donc c'est un fleuve qui a un régime torrentiel, hein, sur les trois quarts de son lit, ce fleuve a la capacité à générer des vitesses relativement importantes. Et ce n'est que quand il arrive dans la basse vallée de l'Aude que son lit s'élargit. Et donc, on a des typologies d'inondations qui sont différentes, que l'on soit sur la haute ou la moyenne vallée de l'Aude, de la basse vallée de l'Aude.
Oui. Alors, vous parliez, monsieur Aversin, des embâcles. Alors, encore un mot que les gens ne connaissent peut-être pas précisément. En fait, ces arbres, ces végétations qui peuvent obstruer dans les crues violentes, les ponts, par exemple.
Oui.
Et qui font des barrages artificiels et qui aggravent les crues, en quelque sorte, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Donc, il se peut que, à l'occasion de crues torrentielles, j'explique peut-être en quelques termes ce qu'est une crue torrentielle, et c'est la particularité de nos territoires méditerranéens.
Ben, c'était 99, 2018, c'était ça.
Ben, 2018, 350 mm en 10 heures.
Voilà.
Donc il faut imaginer un mètre carré, vous avez 350 mm sur un mètre carré, et pareil sur le mètre carré d'à côté, et ainsi de suite.
Et peut-être plus clairement 35 cm, ça, voilà. Ce qui parle peut-être encore
donc,
plus à l'esprit.
Donc imaginez ces trombes d'eau qui tombent sur un pas de temps très court, et donc toute cette eau arrive à la rivière, et donc les rivières...
Et là, c'est plus 35 mm, c'est des mètres de hauteur.
Typiquement, je donne souvent cet exemple-là. Le Loquet, qui est un affluent du fleuve Aude, qui passe
Coufoulin,
Saint-Hilaire, donc entre Limoux et Carcassonne. Le Loquet est monté de 6 mètres en 2 heures, 10 mètres en 4 heures. Donc imaginez une rivière qui fait... 15 mètres de large, vous y allez aujourd'hui, vous avez de l'eau jusqu'au mollet. En 2 heures, cette rivière est montée de 6 mètres et de 10 mètres en 4 heures. Donc c'est exponentiel, la montée est extrêmement violente, et donc nous devons agir pour réduire ses vitesses. Et donc, comment on réduit ses vitesses? Il y a plusieurs stratégies.
Alors, déjà, ces bûcherons, déjà, entretiennent les ripisylves.
Voilà. Donc, les bûcherons agissent, mais ça, c'est tout au long de l'année, oui. Pour maintenir, entretenir les arbres qui vont constituer ces freins à l'écoulement.
Donc, ils vont réduire la possibilité
d'embâcle.
Oui,
parce que garder des arbres en bord de rivière, c'est extrêmement important parce que ces arbres réduisent ces vitesses, font des freins, et puis font aussi ce qu'on appelle des pièges à embâcle, parce que en étant en bord de rivière, ils vont venir stocker ces bois flottants et donc empêcher que ces bois viennent obstruer un pont ou viennent impacter des maisons à l'aval. Donc, il y a cette nécessité d'entretenir les bords de rivière. Il y a surtout la possibilité de permettre à la rivière de dissiper latéralement son énergie, donc de faire ce qu'on appelle des champs d'expansion de crues, et donc de dédier des espaces à la crue, hein, finalement, des espaces qui vont être organisés pour faciliter les écoulements latéraux.
Oui, c'est des lits de rivière plus larges.
Oui, oui, oui. Donc,
ce qui est un peu contraire à ce qui se faisait à un moment où on avait tendance à creuser les rivières.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, on déconstruit presque ce qui s'est fait dans les années 50-60, où les techniques d'alors, c'était de se protéger des rivières en faisant ce qu'on appelle des petits merlons, c'est-à-dire des buttes de rivière, des buttes en bord de rivière pour chenaliser, canaliser les rivières. Et donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette stratégie-là n'ont pour principe que d'accélérer les écoulements et donc d'aggraver le risque à l'aval. Et en plus, quand la rivière déborde, elle ne peut pas revenir dans son lit initial parce que on a ces petits merlons en bord de rivière qui empêchent le retour à la rivière. Donc toute notre stratégie, c'est de travailler en étroite relation, notamment avec la profession agricole, pour pouvoir, quand c'est pertinent, acquérir un certain nombre de fonciers pour favoriser ces débordements dans des espaces qui sont dépourvus d'enjeux. Donc ça, c'est une stratégie, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et puis, Il y a d'autres techniques, notamment la construction d'ouvrages, mais ça reste quand même relativement limité, parce qu'on ne peut pas faire des ouvrages partout. Mmh. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire des digues et des bassins partout.
Oui, alors à ce sujet justement, Jean-Marie Aversinck, on en avait déjà parlé lorsque nous vous avions reçu précédemment. Je pense que le projet qui, quelque peu polémique, tient toujours, c'est l'aménagement du Rec de Veyret avec le bassin écréteur de Montredon. C'est un projet alors qui, pour le moment, ne fait plus parler de lui, mais qui tient toujours, je suppose.
Alors effectivement, c'est un projet qui est inscrit au PAPI 3, le programme d'aménagement et de prévention contre les inondations. C'est un projet qui est porté par le syndicat mixte du Delta de l'Aude, le SMDA, qui avance, hein, puisque en termes d'ingénierie, nous avançons sur les études préliminaires. Et donc ce projet consiste à construire trois ouvrages. Donc le bassin, vous l'avez évoqué, le bassin écréteur de Montredon, un autre bassin écréteur sur Narbonne, et surtout d'élargir le couloir endigué dans la traversée de Narbonne.
Oui, sur le parcours donc de ce qui s'appelle le Rec de Veyret.
Exactement. Alors, donc c'est un cours d'eau qui alors beaucoup l'ignorent parce que on passe au bord de ce quand on remonte quand oui, on va vers les Corbières qu'on remonte de Montredon vers les
d'eau, quoi.
Voilà, on se rend pas compte de qu'il y a même un cours d'eau. C'est un rec sec. Hein. Pour autant, il constitue un vrai danger, alors qu'il est méconnu, ignoré. Je donne quelques chiffres pour illustrer quand même la dangerosité de ce cours d'eau. C'est un cours d'eau dont la crue centennale pourrait subvenir s'il tombait 300 mm en 24 heures. Je rappelle... La crue de 2018, 350 mm en 10 heures. Donc,
c'est plausible, quoi.
C'est une crue qui est totalement plausible, qui concerne énormément de monde, 8500 personnes sur...
Oui, dans les zones industrielles voilà, d'activité de Montredon, par exemple.
De Montredon et de Narbonne. Donc, à la différence d'autres secteurs où il m'arrive d'aller voir des maires... et des habitants et de leur expliquer que on a eu beau chercher des solutions et que pour plein de raisons il n'y a pas de solution ou alors pas forcément de solution collective de protection collective que représentent les ouvrages et ça c'est difficile de voir un maire, de voir une population et de dire mais écoutez on a tout pesé, on a tout creusé. Et il n'y a pas de solution
autre que celle que vous préconisez.
Et donc là, sur Montredon et Narbonne, il existe une solution qui combine différents ouvrages. Et donc je pense que c'est une opportunité hein, réelle.
Mais que contestent, comme vous l'avez dit, certains maires, certains élus et certains habitants, évidemment.
Oui, il existe une contestation sur Montredon. On a d'ailleurs des échanges oui, avec la commune de Montredon, avec les collectifs.
Et financièrement, c'est un projet qui s'élève à combien ? Parce que il faut le financer.
Oui, donc c'est un projet qui est extrêmement coûteux, mais qui est en rapport avec la construction de trois ouvrages. Il faut imaginer un ouvrage à Montredon, un ouvrage à Narbonne et le doublement du couloir endigué. Donc c'est un projet évalué aux alentours de 30 millions d'euros, financé à 80%. C'est un lourd projet qui demande beaucoup d'énergie et d'ingénierie. Que ce soit technique, mais aussi en termes de concertation, notamment avec les collectifs en place.
Ce qui signifie qu'on en parlera encore un certain temps, mais que pour vous, il faut qu'il aboutisse pour qu'on soit tranquille en quelque sorte.
Bah écoutez, quand vous agissez tous les jours pour prévenir et protéger les populations contre le risque inondation, et que vous savez que sur ce territoire, il y a 8000 personnes soumises à une crue centennale qui n'a rien dit d'hypothétique, effectivement, il me tarde que ces populations puissent être protégées définitivement.
On marque, Jean-Marie Aversin, une seconde pause.